Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors aujourd'hui, la politique mondiale subit des transformations extraordinaires et l'Europe peine à s'y adapter, Brice.
Oui, les Européens doivent mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu à déplorer le monde d'hier. On ne peut pas continuer à pleurnicher sur la fin de l'ordre libéral international et sur notre cher multilatéralisme assassiné par Donald Trump. Cela ne les ressuscitera pas. En réalité, Trump ou un autre, les États-Unis n'auraient sans doute pas agi différemment. Ils ont seulement pris acte avant nous autres Européens du fait que la Chine avait acquis les moyens de faire basculer l'ordre mondial dans une direction nouvelle, conforme à ses propres intérêts, et ils s'y sont adaptés afin de mieux défendre leurs intérêts, nous pas. Ce n'est certainement pas la fin de la mondialisation rêvée il y a une quinzaine d'années par des gauchistes à la traîne, mais c'est l'entrée dans une époque nouvelle, oui, une ère où la Chine est désormais en mesure de proposer son propre système mondial d'échange alternatif à une mondialisation pilotée jusqu'ici par les puissances occidentales. Et la proposition qu'elle fait à l'Asie comme à l'Europe, « One Belt, One Road », dit encore « Nouvelle route de la soie », en est la matérialisation explicite. Eh bien, de notre capacité à y répondre, ou non, collectivement, voire à proposer une alternative européenne à cette initiative de relance de la mondialisation, dépendra la place de l'Europe sur l'échiquier du XXIe siècle. Mais nous sommes pris au dépourvu, car nous avions imaginé que l'entrée de la Chine à l'OMC signifiait l'alignement progressif de cette immense puissance sur nos modes de pensée et de gouvernance à nous, la conversion de ses dirigeants réputés communistes au libéralisme classique, la poursuite du mouvement de privatisation de l'économie amorcé par Deng Xiaoping. Or aujourd'hui, écrit Andrew Small dans Foreign Affairs, l'Europe a perdu l'espoir que la Chine transforme son économie ou autorise un accès plus large à ses propres marchés. Et dans le même temps, des acteurs économiques chinois, soutenus et subventionnés par leur propre État, ont progressé dans des secteurs que l'Europe considère comme critiques pour son propre avenir économique. La BDI, la Fédération allemande de l'industrie, met en garde ses adhérents contre un pays, je cite, « entré en compétition systémique avec les économies libérales et qui, dans cet esprit, regroupe ses propres capacités de manière efficace à des fins à la fois économiques et politiques ».
Mais Brice, nous avons nourri bien d'autres illusions sur l'état du monde, nous autres Européens.
Oui, comme le rappelle Jean Pisani-Ferry dans un papier paru ces jours-ci chez Project Syndicate, nous avons cru que l'interdépendance économique croissante entre les blocs commerciaux allait rendre les conflits militaires à l'ancienne obsolète. C'était la fameuse mondialisation heureuse. Souvenez-vous, au contraire, nous sommes entrés dans une ère caractérisée par l'exacerbation des rivalités géopolitiques. Concentration économique et compétition géopolitique vont de pair, écrit Pisani-Ferry. Les échanges économiques sont désormais conçus par les deux superpuissances comme des moyens au service de leur politique extérieure. Alors l'Union européenne, qui de son côté prône la concurrence libre et non faussée parce qu'elle privilégie les avantages du consommateur, fait face désormais à des géants nationaux, conçus et utilisés comme des instruments de projection de la puissance chinoise dans le monde. Ils ne se conforment guère à nos règles et à nos normes. De leur côté, les États-Unis aussi font de plus en plus désormais un usage géopolitique de leur économie. Ils utilisent ainsi ouvertement leur monnaie comme un instrument de puissance. Et au nom de la fameuse extraterritorialité du droit américain, Washington entend nous interdire de commercer avec les États avec lesquels il est en conflit, comme l'Iran. Alors à côté des vertus supposées pacificatrice du doux commerce, nous avons également misé, nous autres Européens, sur l'unification du monde par Internet. Eh bien, non seulement le réseau mondial était censé ouvert, mais il était censé concurrentiel. Or, ce qui s'est produit, au contraire, et je cite à nouveau Pisani-Ferry, c'est sa fragmentation en un archipel de sous-systèmes séparés les uns des autres, dont certains sont directement administrés par des gouvernements. Et j'ajoute que le secteur du numérique, loin d'avoir suscité la fameuse concurrence, a donné naissance en réalité à un véritable oligopole américain. Alors, ce changement rapide de la donne économique mondiale appelle du côté de l'Union européenne à des révisions rapides des politiques menées jusqu'ici. Déjà, comme les États-Unis, l'Allemagne et la France ont pris des mesures pour protéger certaines activités stratégiques de la convoitise d'entreprises chinoises concurrentes. Faut-il pour autant favoriser la naissance de champions nationaux européens, comme le souhaitent manifestement les Françaises et les Allemands, mécontents d'avoir vu la Commission européenne interdire la fusion Alstom-Siemens au nom des règles de la concurrence. Savoir, en tout cas, il faut changer les règles limitant les fusions-acquisitions.